Nous sommes donc au chapitre 10e de Saint Luc et c'est une période de formation des disciples. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé en amont. Vous savez, quand on médite sur un passage de l'Évangile, eh bien, c'est redonner le contexte. Eh bien, il y a eu plusieurs choses que les disciples ont vécues et les apôtres aussi. Ils ont d'abord été, les apôtres ont été choisis, institués, et puis il y a eu des miracles, et puis il y a eu des paraboles. Et puis, juste avant, au chapitre 9e, il y a eu quelque chose de particulier. Il y a comme on sent qu'il y a un changement. Il est dit comme ça, « Jésus durcit sa face vers Jérusalem ». Ça veut dire quoi? Il a déjà annoncé sa passion et on sent que maintenant, il va directement vers Jérusalem et c'est vraiment le lieu, évidemment, de sa passion, sa mort et sa résurrection. On sent donc une urgence, si vous voulez, à partir de ce chapitre 9e, et urgence qui se confirme dans le chapitre 10e et dans le passage que nous venons de lire. Peut-être vous n'y avez pas prêté attention, mais il est dit à un moment donné, quand Jésus envoie les disciples, ne saluez personne en chemin. C'est tout à fait inhabituel pour des hommes orientaux. On sait bien, il fallait faire des salam alek et encore plus au temps biblique. On sent donc qu'il y a une urgence. Il y a une urgence parce que le Seigneur est là et le Seigneur se dirige vers sa passion. Mais en même temps, cette urgence, elle est d'abord dans le fait de transmettre la paix. Et c'est sur cette question de la paix que j'aimerais méditer avec vous. La paix, c'est pas la paix à la manière du monde, c'est pas des cessez-le-feu, même si ça peut être une première étape. On voit bien notre monde déchiré, malade, avec des guerres un peu partout, et on appelle partout au cessez-le-feu, bien souvent en vain. La paix, ce n'est pas quelque chose, la paix, c'est quelqu'un. Et le Seigneur, à travers cette paix qu'il veut donner par ses disciples, et c'est intéressant que c'est par ses disciples qu'arrive la paix. C'est lui qui les envoie au-devant de lui. C'est-à-dire, rencontrer le Christ du temps du Christ, c'était rencontrer ses disciples. C'était rencontrer déjà ce tout petit noyau d'église. C'était là que le Seigneur voulait se révéler et leur a donné pouvoir de guérir, pouvoir de libérer des démons, etc. Donc c'est intéressant de dire, tiens, cette question de la paix, au fond, il y a quelque chose que le Seigneur nous invite à travailler. Et comment est-ce qu'on peut la transmettre, sinon en étant dans une certaine fragilité? C'est comme ça que je comprends ce passage-là, ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales. Arriver dépourvu de toute puissance, arriver dépourvu de pouvoir face à l'autre. Et on voit bien que transmettre la paix intérieure, c'est d'abord soi-même être en paix. Éprouver cette présence du Seigneur, éprouver d'abord être connecté à soi-même, être attentif aux motions du Saint-Esprit, au mouvement de notre âme, et on voit bien que c'est pas si simple que ça. Dans notre société, ça n'a jamais vraiment été, mais de plus en plus, il y a des forces centrifuges qui nous emmènent loin de nous-mêmes. J'aime bien cette phrase de Bernanos qui dit en 1946, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui dans La France contre les robots, la société moderne est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. On voit bien qu'elle est ennemie de la vie intérieure. Et les ennemis de la vie intérieure, les ennemis de la vie prière, ce sont les ennemis de la paix. Parce que c'est par la vie intérieure que la paix du Seigneur peut être en nous et que nous pouvons la transmettre. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est en acceptant de renoncer à une forme de toute puissance que nous pouvons aller à la rencontre de l'autre et revisiter aussi dans nos relations où est-ce que nous en sommes de cette paix que le Seigneur nous donne de transmettre. Parce que, et c'est intéressant, Jésus les envoie deux par deux. Non pas par seul, on dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus d'efficacité qu'il envoie 72 seuls, comme ça il y aurait plus de villes visitées? Non, deux par deux. Deux par deux, c'est-à-dire la qualité de relation que vous avez comme disciple, va être une vérification de l'adhésion au Christ. La qualité du lien va être un lieu où le Seigneur va se donner présent et d'une certaine manière, à travers cet évangile, on peut dire qu'il y a moins de bien, plus de lien. Moins de bien, plus de lien. enlevez tout ce qui est bourse, sandales, sac, laissez-le de côté. Voilà, centrez-vous sur la qualité de la relation. Et c'est cette qualité de relation qui, ensuite, quand les gens arrivent, voient l'amour qu'il y a entre les disciples. C'est à cela qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est ça qui fait que la paix, ensuite, elle se transmet. Et je pense que ça peut être une bonne occasion que nous puissions revisiter nos différentes relations. Quelles sont les relations qui nous enlèvent la paix ? Et on le sait très bien, quand soi-même on n'est plus en paix, ce n'est pas la faute de l'autre. Le « tu qui tue », tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, non, ça c'est une erreur. S'il y a quelque chose, une relation qui enlève la paix, qu'est-ce qui en moi est à retravailler et à revisiter ? Qu'est-ce que je dois encore laisser comme sac, comme bourse, comme sandale ? Qu'est-ce que je dois laisser en fait comme toute puissance ? Qu'est-ce que je dois laisser comme pouvoir ? Et le Seigneur, à travers cette invitation à transmettre la paix, eh bien, il nous invite à regarder nous-mêmes où est-ce que nous en sommes de nos différentes relations et comment est-ce qu'on peut... C'est le travail d'une vie, on le sait très bien, c'est le travail d'une vie. Hein. Renoncer à la toute-puissance, c'est le travail d'une vie. Eh bien, débusquons dans les personnes avec qui ça nous coûte le plus. Eh bien, on peut dire, tiens, là, qu'est-ce que le Seigneur vient manifester dans peut-être une toute-puissance qui est encore au rendez-vous et que le Seigneur veut aussi débusquer et nous laisser de côté. C'est intéressant de voir que juste au chapitre 9e, en même temps que Jésus durcit sa face vers Jérusalem, il est focus vers Jérusalem, il y a eu un autre envoi, hein, puisque si vous êtes attentif au texte, le Seigneur en désigna encore 72. Encore, ça veut dire qu'il y en avait eu d'autres avant. Et c'était qui les autres avant ? Les autres avant, c'était les 12 apôtres. Avec pratiquement les mêmes paroles, ils ont été envoyés en mission. Et après cet envoi en mission, il y a eu une multiplication des pains. Et je me dis, tiens, le fait que, au fond, ce lien entre l'envoi en mission et la multiplication des pains, qui est une préfiguration de l'Eucharistie, est-ce que ça ne nous dit pas justement que l'Eucharistie, c'est une pédagogie ? Parce qu'en matière de vulnérabilité, en matière de fragilité, voilà l'Eucharistie qui nous est donnée. Un peu de pain, un peu de vin, et c'est le ciel qui s'ouvre. Nous sommes la religion du vertige. Nous sommes la religion de la disproportion. Il n'y a pas de commune mesure entre un peu de pain, un peu de vin, un peu d'eau sur le front d'un enfant, quelques paroles entre un homme et une femme au jour de leurs noces et la grâce de Dieu. Il n'y a pas de commune mesure. Donc le Seigneur nous donne l'Eucharistie comme un lieu où on apprend à accueillir la fragilité, où on apprend à accueillir la fragilité non pas comme une menace, où on apprend à accueillir la différence, non pas quelque chose qui vient me titiller et me fragiliser, non au contraire la différence comme un lieu de communion. Et alors c'est pour ça que participer à la messe est tellement important, parce que c'est une pédagogie. L'Eucharistie, vous voyez, c'est une pédagogie. Jésus, en même temps qu'il a envoyé ses disciples au chapitre précédent, tout de suite la multiplication des pains, préfiguration de l'Eucharistie. Comme pour nous dire, dans l'Eucharistie, il y a le logiciel, entre parenthèses, de tout envoi en mission. Parce que je me donne moi-même dans la fragilité, la petitesse de l'hostie, du pain et du vin consacré. Alors je trouve que c'est une belle manière que le Seigneur nous donne de reprendre conscience que notre envoi en mission est chacun de nous. On est le premier appel, c'est l'appel à la vie, mais toute vie est une vocation, et toute vocation est tout pour une mission. Hein. Donc je trouve ça intéressant de dire, tiens, où est-ce que j'en suis dans cette réponse à l'appel du Seigneur de nous tenir prêts pour être envoyés en mission, là où nous sommes, la plupart du temps, la plupart d'entre nous, c'est là où nous sommes que nous sommes envoyés en mission, mais c'est précisément là où c'est le plus difficile. C'est avec le prochain proche, c'est avec la membre de la famille, avec les membres de notre communauté, avec les membres de notre cercle professionnel, c'est là où le Seigneur nous attend, c'est là le lieu de vérification de notre adhésion au Christ. Hein, ce n'est pas, oui, on aime beaucoup les gens qui sont en Inde, qui sont dans la souffrance, dans des pauvres très lointains. On a beaucoup de facilité à rentrer en contact avec eux. mais avec le prochain proche. On voit bien qu'on est titillé, le Seigneur nous dit, vérifie la qualité de ton lien et en quoi il y a une toute puissance peut-être qui se cache et que tu ne vois pas encore et qui fait qu'il y a une distance, tu n'es pas en communion, la paix n'arrive pas à l'autre. Le prophète Isaïe, c'était la première lecture, c'est intéressant, il encourage beaucoup, il parle beaucoup de consolation, etc. C'est rare d'avoir un prophète qui encourage. Bien souvent, les prophètes, ils dénoncent, vous le savez, au contraire. Si un prophète encourage, ce n'est pas forcément bon signe. Pourquoi ? Parce que, en fait, là, il y a le retour, on est à la fin du prophète Isaïe, le retour du peuple d'Israël à Jérusalem, etc. Mais le retour a été difficile, il a été mal accueilli, et il encourage les Hébreux à ne pas être retenus par les difficultés. Je trouve que dans cette question de la paix, parfois on peut se décourager aussi. On peut se décourager, on dit un peu à quoi bon ? À quoi bon être on voit bien que le monde est en guerre depuis toujours. À quoi bon travailler sur soi-même si de confession en confession, eh bien, ce sont souvent les mêmes péchés que l'on présente à la miséricorde de Dieu. Et je trouve ça beau d'entendre Isaïe qui, face à un peuple qui est découragé, après 50 ans d'exil, etc., et revient sur sa terre, mais d'autres ont vécu là pendant ce temps-là, ils ne retrouvent pas leur maison, ils n'ont pas forcément été bien accueillis, etc. Il dit, consolation, soyez dans Jérusalem, soyez consolés. Alors, on peut aussi dire, tiens, nous-mêmes, quand est-ce qu'on a cet encouragement vers la paix ? Quand est-ce qu'on s'encourage les uns les autres ? Quand est-ce qu'on dit des paroles bienveillantes, des paroles valorisantes qui précisément fait découvrir chez le prochain cette capacité que lui-même, à son tour, aura de transmettre la paix ? Alors demandons au Seigneur cette grâce particulière d'être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.